Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Emmanuel Auriol, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics, membre, on le dit en anglais parce que c'est la marque internationale.
Hein, c'est notre métier est assez international, ouais. Donc on est obligé d'avoir des labels internationaux.
Membre du Cercle des économistes et du Conseil d'analyse économique, le Cercle, partenaire de cette émission. Chaque jeudi, j'en ai deux, si vous voulez, le prix d'un.
C'est le luxe.
Stéphane Carcio est avec nous.
Et les deux meilleurs, hein, vraiment.
Oh, exactement. Responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po et donc membre du Cercle des économistes. Et Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Quand même, chaque fois qu'on a un chèque, j'en ai toujours des réactions comme ça. On parle toujours des plus modestes, me dit cet auditeur, mais celui qui est un peu juste au-dessus, qui travaille, paye des impôts, mais est un peu au-delà du seuil qui permet d'avoir accès à tous les chèques en tout genre, il le vit très mal. C'est un sujet, Xavier, ça. Hein, c'est un sujet, parce que c'est les gilets jaunes, en fait, ces gens-là.
Alors, c'est un sujet...
Et Gabriel Attal est très sensible à cette situation.
C'est un sujet, il y a une réalité derrière, qui est qu'effectivement, quand on fait un seuil, il y a des gens dessus, il y a des gens en dessous.
Oui. C'est toujours les mêmes.
Et puis, ça renvoie un peu à ce que je disais sur le fait qu'on ne cible plus, donc... il y a des gens qui vont recevoir le chèque et qui, en fait, ne roulent pas beaucoup, et puis d'autres qui roulent beaucoup, qui vont recevoir un petit chèque, ou pas de chèque du tout. Après, on en discutait à l'instant, il ne faut pas alimenter le sentiment qu'en France, on aide que les gens jusqu'au troisième ou quatrième décile, qu'il n'y en a que pour eux, et que les autres, ils n'ont rien du tout.
Mais ils le ressentent comme ça.
Oui, mais...
Ceux qui ne bossent pas, on leur donne de l'argent.
Il faut qu'ils regardent autour d'eux, ils ont
accès à beaucoup de
choses. Ils ont une couverture santé, ils ont une éducation qui est gratuite ou quasi gratuite. Ils ont accès à des infrastructures qui sont aussi extrêmement peu chères. On est en train de fibrer toutes les campagnes de la France. Enfin, c'est un effort d'investissement public qui est considérable et qui n'est fait dans pratiquement aucun pays au monde aux frais de la collectivité.
D'accord, Xavier, mais on peut pas insulter le ressenti.
Quand on dit j'habite à la campagne et j'ai un certain revenu et j'ai rien du tout. Ben oui, mais c'est quand même des gens qui vont accéder au très haut débit et qui pourront aussi télétravailler dans leur campagne, bien que ça soit à faible densité et que ça représente un investissement avec un rendement qui est extrêmement faible du point de vue de l'opérateur de fibre. Et d'ailleurs, c'est subventionné. Donc voilà, on vit dans un pays qui est comme celui-là. Ça, c'est pas des choses qu'on voit parce qu'on ne les paye pas et on a le sentiment que c'est normal. Mais demandez à Emmanuel, elle vous expliquera comment ça se passe aux États-Unis.
Mais bien sûr, on va pas ouvrir ce débat parce que l'INSEE a fait un travail très intéressant il y a quelques mois.
Très important.
En disant voilà ce que la redistribution monétaire permet de réduire comme inégalité et voilà ce qu'on obtient en plus en ajoutant ce que les services publics apportent.
Ah oui, c'est fondamental.
C'est parce fondamental.
Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un être humain que d'être soigné quand il est malade et que de pouvoir espérer que ses enfants soient éduqués. Ouais. Je veux dire, c'est les deux choses.
Certains vous diront que ce sont justement des choses qui commencent à pêcher dans notre pays.
Parce que c'est vrai qu'en même temps, il y a des réformes à faire, il y a des exigences. Mais je pense qu'il faut quand même rappeler aux Français à quel point notre système, et qu'il faut donc protéger, est protecteur. Je pense que c'est une chance pour notre pays. Mais ils reçoivent de l'État. Par la redistribution des services publics, beaucoup.
Mais vous voyez par exemple, à nouveau.
Ils sont à l'abri de risques.
Des plus gros chocs qu'on peut avoir.
Qui viennent détruire des vies dans d'autres pays. Vous avez une grave maladie en France, vous allez être soigné de la meilleure façon possible pour un coût, un reste à charge qui sera dérisoire. Ça n'est pas le cas partout dans le monde.
Je suis d'accord. Mais à côté de ça, on ne peut jamais balayer d'un revers de main au nom de la science et des chiffres le ressenti de la population. J'ai cet auditeur Fredo qui me dit l'inflation est sous-estimée, son calcul est biaisé, bientôt la récession. On a vu dans notre dernier sondage Vodoxa que la moyenne d'inflation perçue par les Français, c'est 15,8%.
Oui, mais parce que les Français, quand on leur dit l'inflation, ils regardent le prix de l'essence.
Le prix de l'essence, c'est du panier.
Ils le voient affiché tous les matins sur la route, même quand ils ne prennent pas d'essence. Alors qu'ils ne voient pas le prix des autres choses, en fait, qui ne sont pas affichées de la même façon.
Les brosses à dents, par exemple, elles sont moins chères qu'avant.
Ah bon ?
Eh oui.
Il y a ce chiffre, justement, du Trésor, qui est exactement, je crois, très pour très celui que l'OFCE avait établi. Le choc énergétique 2022, l'État a pris à sa charge 52% du choc, les entreprises 42% et les ménages 6%. Alors après, c'est vrai qu'on voit dans les réactions, on n'a rien, tout est plus cher.
Non mais, il y a des gens...
Emmanuel Auriol, on est en train de quitter notre débat précédent, mais je vais y revenir.
Non, allez-y.
Je ne veux pas entamer
ce débat dans la mauvaise direction.
Mais vous vouliez réagir sur quelque chose.
J'ai oublié, ça y est.
Bon, vous avez oublié. on revient sur l'immigration. Stéphane Carcillo, quand vous entendez ce que décrivait Emmanuel Auriol, au-delà même de l'étude économique que ça peut représenter, ce travail du Conseil d'analyse économique, ça semble évident. Ça semble évident qu'on a besoin des immigrés et on a besoin d'immigrés qualifiés.
Oui, alors on a besoin, surtout dans le marché du travail actuel, qui est extrêmement tendu, comme vous savez, à la fois en France et dans pas mal de pays.
Un peu près du micro. Hein.
On a vraiment une situation où les employeurs cherchent de la main-d'œuvre, à la fois de la main-d'œuvre non qualifiée et de la main-d'œuvre très qualifiée. C'est intéressant d'ailleurs parce que le marché du travail, comme vous savez, se polarise. On a les emplois avec des qualifications moyennes, médianes, qui sont facilement automatisables, qui ont tendance à disparaître. On a une très très forte demande pour les emplois qualifiés, les emplois professionnels qualifiés, des services très qualifiés, mais aussi des ingénieurs et dans les services dans les services liés à la digitalisation, très important. La santé aussi, très qualifiée, services professionnels très qualifiés. Et puis on a aussi des besoins dans les services peu qualifiés, parce que c'est tous les services à la personne, le soin, les services à la personne, les livraisons, l'hospitalité, la restauration, etc. Et en fait,
construction
aussi. La construction aussi, dans les pays de l'OCDE, on a cette polarisation qui...
C'est valable dans tous les pays de l'OCDE.
C'est valable dans presque... C'est une intensité variable, mais c'est valable dans presque tous les pays.
C'est une tendance, oui.
Y compris en France.
C'est l'effet sablier, quoi, comme on dit.
Voilà, l'effet sablier. Et donc, ça crée des besoins très, très forts dans un marché du travail aujourd'hui qui est extrêmement tendu. C'est naturel qu'on ait à la fois besoin d'une main-d'œuvre qui vienne de l'étranger pour des postes peu qualifiés, comme pour des postes très qualifiés. Les deux sont essentiels pour faire fonctionner l'économie. Ouais. Vraiment, c'est important parce que ces services...
Autant on peut sélectionner des gens sur leur qualification, sur leur non-qualification, ça devient beaucoup plus compliqué.
Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un peu cette absence en France de vision sur les besoins liés à l'immigration. Et du coup, c'est difficile de faire venir les gens dont on a besoin en particulier. Il n'y a pas d'adéquation entre les entrées et les besoins des entreprises. C'est un peu l'idée de la note, c'est de remettre en adéquation, comme l'ont fait le Canada, l'Australie, d'autres pays un peu mieux. Et d'une certaine mesure, par le passé, les États-Unis avec certains visas qu'ils avaient, de mettre un peu mieux en adéquation ces besoins et ces entrées. Mais en tous les cas, cette immigration, elle est essentielle au fonctionnement de notre économie. Et elle contribue très très fortement à la fois par le travail de ces personnes qui sont immigrées et puis par l'insertion de leurs enfants, qui, vous savez, en général d'ailleurs, ont une insertion sociale et une progression sociale plus forte que les nationaux. Justement parce que les parents arrivent avec beaucoup d'ambition, qu'ils ont pris des risques, que leurs enfants en fait ont transmis à leurs enfants ce goût du risque et aussi cette motivation. Et en général, quand on suit les enfants de parents immigrés, ils ont une progression plus forte, par exemple en matière d'éducation ou d'insertion sur le marché du travail par rapport à leurs parents que les nationaux. Donc voilà, il faut regarder ça dans son ensemble, dans sa globalité. C'est quand même une contribution positive à notre économie.
C'est intéressant d'entendre ce débat avec un œil purement économique et pas du tout passionnel sur le terrain politique. Emmanuel Auriol et après Xavier Timbaud. Oui.
Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, parce que c'est très important que les auditeurs comprennent que l'immigration travaille. C'est effectivement un moteur de croissance, donc ça crée des bons emplois, des good jobs, comme on dit en anglais, pour les Français. C'est parce qu'ils peuvent le voir comme une menace, ce que je peux comprendre. Mais en fait, et c'était très bien expliqué juste avant, ils sont complémentaires. Donc les compétences des immigrés sont complémentaires, on le voit dans toutes les études, des nationaux. Donc en général, ils sont soit moins qualifiés, soit plus qualifiés que les nationaux. Et donc, ils permettent de remplir des demandes qui ne sont pas remplies autrement. Et quand ce n'est pas rempli autrement, vous savez ce que font les entreprises ? Elles renoncent à créer de l'activité. Elle délocalise. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si je ne trouve pas de salariés, soit je ne fais rien, soit je vais m'installer ailleurs où je trouverai des salariés. Et donc les Français sont heurtés par ces politiques.
Réaction de cet auditeur. Non, l'éducation et la santé ne sont pas gratuites. Ce sont mes impôts qui financent tout ça.
Tout à fait.
Bon, on n'a pas dit qu'ils n'étaient pas coûteux. On a dit que les gens de la classe moyenne ne les payaient pas directement. Voilà.
Donc sur le sujet de l'immigration...
Juste pour me faire l'avocat du diable et pour profiter de la présence d'Emmanuel et de Stéphane sur cette question, mais Emmanuel y a en partie répondu, mais je pense que c'est important qu'elle le redise. On oppose souvent en fait l'immigration et le chômage en disant ça va faire du chômage pour les Français. Il y a déjà du chômage. Est-ce que c'est pas contradictoire avec cet objectif? Ou même, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, sur la réussite des enfants d'immigrés. Mais la réussite des enfants d'immigrés, est-ce que ça va pas provoquer l'échec des enfants nationaux? Et est-ce que ça, c'est pas, du coup, contraire ce qu'on doit faire pour notre population. Avocat du diable, hein.
Très rapidement, juste sur la.
Pas d'insulte personnelle.
Sur l'activité. Ça, c'est des raisonnements qu'on entend. C'est un peu la même logique d'ailleurs qu'avec les 35 heures. C'est de penser que l'économie, c'est un gâteau à taille fixe. Et donc, si je mets plus de gens, je vais avoir des parts plus petites, forcément. C'est l'idée. Or, l'économie française est en croissance, en moyenne permanente, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas un gâteau à taille fixe. C'est un gâteau qui croît en taille. Et donc, plus il y a d'activité économique, évidemment, plus cette croissance est soutenue, et donc plus il y a de boulot pour tout le monde. Là, l'idée, effectivement, il y a des chômeurs, mais beaucoup sont sans qualification. On ne va pas les mettre sur des boulots hautement qualifiés, d'ingénieurs, d'infirmières.
On va les mettre sur des boulots moins qualifiés.
Oui, alors ça, c'est une possibilité, mais il va falloir à ce moment-là, dans beaucoup de cas, supprimer, parce que c'est des boulots, certains, très pénibles, physiquement, incompatibles avec la vie de famille. Si vous êtes une mère seule avec deux enfants petits, donc vous allez supprimer le RSA et tout ça pour que ces gens prennent ces emplois. Ce sera. Parce que tant qu'il y a ça, ils peuvent dire ben, non, je préfère m'occuper de mes enfants à la maison. Et mais donc il y a quand même des enjeux.
Les emplois sont différents. C'est ce qui est important, c'est que les emplois que prennent, qu'acceptent les immigrés, sont des emplois que ne peuvent pas prendre ou accepter les nationaux, soit parce qu'ils n'ont pas les qualifications.
Pourquoi ne peuvent pas
soit parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires, c'est les plus qualifiés. Soit parce qu'ils ont les qualifications, mais que c'est pas assez qualifié pour eux, que les emplois sont dans des conditions de travail qui sont mauvaises. Et prenez par exemple le travail agricole, qui sont des conditions très difficiles. Prenez par exemple le travail dans la restauration
de nuit,
etc. Donc évidemment, ce sont des travaux qui sont difficiles avec des horaires difficiles, et très souvent les immigrés sont prêts à les accepter parce qu'ils viennent de pays où les conditions de travail sont bien pires, et pour eux c'est une forte progression. Ils espèrent que ce soit une marche dans leur intégration dans le pays, ils l'acceptent alors que les Français n'acceptent pas. Donc c'est pas les mêmes emplois non plus, et ce que dit Emmanuel est très important, c'est pas un gâteau à taille fixe, parce qu'on a ces emplois, on va créer encore plus d'emplois derrière pour les nationaux. Et donc,
j'entends ce que vous dites, hein,
c'est bien beau.
Mais voilà, je pense que c'est quand même la clé du débat, c'est-à-dire c'est de bien expliquer cette articulation, parce que malgré tout, il y a des zones de contact. Des immigrés vont accepter des emplois que d'autres ne veulent pas, mais ça veut dire aussi, par exemple, qu'ils vont empêcher les salaires d'augmenter dans ces métiers qui seraient peut-être plus attracteurs. Si les rémunérations y étaient plus élevées, vous parlez de la restauration, peut-être qu'avec des rémunérations plus élevées dans la restauration, il y aurait plus de jeunes qui seraient en CAP pour travailler dans la restauration. Et c'est
mais la restauration deviendrait un bien de luxe, alors ça veut dire
peut-être, mais
on n'irait jamais au restaurant.
Enfin, ça dépend de la société qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une société où la restauration est un bien ordinaire qui est fait par des gens qui ont des salaires qui sont très bas et qui ne peuvent être que des immigrés, ou est-ce qu'on veut que ce soit un bien de luxe avec des conditions de travail? Donc, non, mais je veux dire, il y a derrière des questions qui ne sont pas anodines. On ne peut pas les prendre sous un angle trop naïf. Donc, souvent dans le débat public aujourd'hui, ces questions-là sont abordées de façon très grossière, et donc ça ne sert pas le débat. Mais je pense malgré tout qu'il faut quand même vraiment se pencher sur le fond de ces questions, parce qu'il y a derrière des choix de société. Il y a des pays qui vivent avec moins d'immigration. Regardez la Suisse, la nature de l'immigration.
La Suisse. Il y a 30% d'immigrés en Suisse.
C'est une nature d'immigration qui est complètement différente.
Non, 15% n'est pas qualifié. Ah non, mais je ne peux pas dire ça. Hein.
Et le niveau du
Suisse est un pays qui vit grâce à l'immigration.
Et le niveau du SMIC, du salaire minimum en Suisse, donne une réponse à la question des emplois peu qualifiés et de leur rémunération qui est complètement
différente. Mais ce n'est pas les Suisses qui occupent ces emplois-là. Hein. Je vous assure, 30% d'immigration, la population suisse n'est pas suisse. 15% sont très peu qualifiés et font tous les boulots dont on parle. Et 15%...
Mais le fond a des rémunérations qui sont extrêmement élevées.
Oui, parce que la productivité en Suisse est très élevée.
Suisses,
hein.
Mais pas pour les Suisses.
C'est un mystère quand même.
C'est pas élevé pour les Suisses. C'est élevé parce qu'ils savent
que c'est cher. Ce que je veux dire, c'est que...
Pour les Suisses, c'est pas du tout élevé, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Ils veulent pas ces boulots-là.
Ce que je veux dire, c'est que ce débat est quand même d'une...
Non, le Luxembourg, la Suisse, l'Irlande, ils ont
d'une
pas
importance et d'une conflictualité qui est extrêmement grande, et dans lequel il faut véritablement aller jusqu'au fond des choses. Parce que, voilà, j'entends ce que vous dites et je partage cette partie du raisonnement. Mais je sais.
Non, il faut de la pédagogie, je suis d'accord.
Je sais que ça n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je me permets de faire l'avocat du diable. Parce que je pense que dans cette question, on ne peut pas le traiter de haut.
On avance. C'était bien de rappeler quand même que l'économie n'est pas un gâteau fini.
Non.
C'est quand même là. C'est...
Ah ben c'est normal. Quand non, on mais a ça a été l'économie, c'est ce qu'on
ça pense. Ça a été la base de la réflexion de la mise en place des 35 heures.
Exactement.
On
c'est
allait,
pareil.
On allait faire plus de parts.
Et toutes les dernières études récentes montrent que ça n'a pas eu d'effet sur le travail.
On refera des sujets sur l'immigration parce que le débat n'est jamais abordé sur le terrain purement économique, mais très souvent sur le terrain de l'insécurité principalement. Alors vous avez fait mouche avec votre brosse à dents, hein, parce que là, ça y est, je m'en prends plein la figure. Écoute, vous direz à Madame Auriol qu'une brosse à dents, ça se mange pas, et qu'on mange tous les jours.
Je savais que ça allait me...
Et on change de brosse à dents.
L'essence non plus, ça se mange pas, hein,
pardon
Nicolas.
L'essence non plus, ça se mange pas. Non, c'est vrai.
Merci.
Non, ça se brûle, là, voilà. Les immigrés suisses sont français, m'écrit Laurence.
Certains, oui, c'est
certains,
vrai.
Oui.
Oui, tout à fait. Mais 100 000.
C'est vrai.
C'est-à-dire,
c'est pas des immigrés. Certains sont des immigrés, mais d'autres sont beaucoup des travailleurs frontaliers qui font l'aller-retour
dans la journée.
Dans la journée, oui.
Bon, évidemment, dès qu'on parle d'immigration, ça réagit à tout va. La semaine de 4 jours, qui veut m'en dire un mot? Stéphane Carcillo, est-ce que... Alors attention, hein, c'est pas de la RTT comme en 99, c'est 35 heures, non pas en 5 jours, mais en 4. Donc 9 heures par jour. Je crois que depuis le 19e siècle, les syndicats ont un acquis social qui est 8 heures max par jour de travail. Hein, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une vraie révolution positive et qu'il faut y aller? Visiblement, ceux qui la vivent sont majoritaires à trouver ça très très bien. Et même les employeurs disent qu'ils y retrouvent en termes de gain de productivité, de bien-être des salariés et de fidélité des salariés.
La fidélité.
Ça a l'air génial.
Non mais pourquoi pas? Je veux dire, l'organisation du travail, les entreprises font comme elles veulent. Après tout, je veux dire, rien n'empêche d'organiser le travail sur 4 jours plutôt que sur 5.
La clé, c'est comme elles veulent. Hein.
Alors,
ce que vous venez de dire,
Bien sûr. Alors, la clé, c'est comme elles veulent, exactement. C'est-à-dire que je pense que l'erreur serait de penser qu'il faut appliquer la même toise à tout le monde dans ce domaine. Parce que les activités ont des besoins très très différents. Être organisé sur 4 jours, ça ne va pas de soi dans plein de métiers. Parce que ça veut dire quand même que soit on ferme le 5e jour, soit on a des équipes qui choisissent 4 jours sur les 5 ou sur les 6 d'ailleurs, parce que les entreprises où on travaille 6 jours, 7 jours sur 7. Hein. Donc,
7 jours.
Ou sur les 7 jours, exactement, on pourrait imaginer voilà, s'organiser différemment.
Par
bon, alors, donc l'importance, je pense, à mon avis, c'est vraiment d'avoir cette liberté. Mais d'ailleurs, les entreprises ont cette liberté aujourd'hui. Il suffit de le fixer dans le contrat de travail. C'est pas du tout. Donc l'important, c'est de pas l'imposer parce que finalement, il y a des entreprises auxquelles ça posera des gros problèmes d'organisation des équipes.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, productivité. Très probablement, les entreprises qui se lancent là-dedans sont des entreprises relativement plus productives que les autres.
À la base.
Naturellement. Pourquoi ? Parce que travailler 9 heures plutôt que 7 heures dans la journée, en principe, si on en croit les études, ça a un léger effet négatif sur la productivité des dernières heures. Pourquoi ? Parce que le matin, tout va bien, on est en forme, le soir, on commence à fatiguer, et quand on doit rajouter deux heures de travail, en général, c'est un peu plus dur, et naturellement, spontanément, on est un petit peu moins productif. Bon. Alors, certaines entreprises disent qu'elles voient un effet sur la productivité, peut-être parce que les gens sont plus motivés, c'est pareil, il faudrait suivre ça dans le détail, mais, voilà, spontanément, on se dit que c'est pas sur la productivité horaire, hein, j'entends bien, horaire, c'est pas absolument évident, les entreprises probablement les plus productives pourront se lancer dans cette expérience le plus rapidement. Maintenant, parce que c'est une organisation très plaisante et que ça laisse 3 jours de libre, ça permet peut-être d'attirer des salariés plus productifs. Donc l'un ou l'autre, on perd peut-être en productivité horaire avec les salariés qu'on a, mais comme on recrute des salariés plus motivés, peut-être plus productifs et plus talentueux, finalement peut-être qu'on s'en sort aussi bien. Donc voilà, tout ça est intéressant, il faut suivre, il faut étudier, mais je crois que la clé, c'est vraiment qu'il faut laisser organiser ça de manière libre et pas l'imposer à toutes les entreprises.
L'un des arguments, dans le top 3 des arguments maintenant pour accepter un job, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est devenu très très important. J'ai rencontré des entreprises qui disent que certains candidats maintenant refusent un job s'il n'est pas 100% en télétravail. On en est là. Xavier, par rapport à cette idée-là, qui n'est pas de la RTT, ce ne serait pas de la réduction du temps de travail.
Oui, j'ai compris.
Mais oui, mais je le répète. Parce que. Non, mais vous souvenez l'histoire du boulanger à Pau, là on lui avait imposé de fermer un jour par semaine parce qu'il était ouvert 7 jours sur 7. Il y a quand même des gens qui me disaient, vous vous rendez compte, ce boulanger qui fait travailler les gens 7 jours? Il y a quelquefois des sujets, il faut vraiment donner plein de détails.
Mais on l'avait fermé parce qu'il faisait travailler...
Il était.
Vous savez pas plutôt ses collègues boulangers qui avaient l'habitude de fermer un jour
par
semaine.
En fait...
C'est un autre débat, ça.
Non, mais c'est un autre débat, mais simplement...
C'est le débat des indépendants.
Non,
vous savez, les indépendants se sont imposés de fermer un jour par semaine.
Mais...
De façon à éviter des concurrences déloyales
des
entre les
France.
Indépendants et les entreprises plus organisées.
Ouais. Bon. Non mais c'est un autre débat, mais je rappelais juste que...
C'est un autre sujet de concurrence.
C'est un sujet de concurrence et puis de différence de statut de travail indépendant versus salarié.
Je passe, mais enfin, c'était région par région, il y a des régions qui pouvaient d'autres noms. Bon bref.
Non, là, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans l'après-Covid, dans une et dans un monde en plus qui devient de moins en moins industriel, et donc où les modèles d'organisation sur le travail, enfin, parce que quand on parle d'une journée de 7h ou de 9h, ça ressemble un peu au chronomètre de la chaîne. Voilà, on sait tous que dans des entreprises de service, c'est pas les heures de présence qui font l'activité, c'est pas aussi simple que ça, il n'y a pas un contremaître qui vient vérifier, non, en tout cas pas dans tous les métiers. Donc je pense qu'aujourd'hui on est quand même un peu perdu sur l'organisation du travail, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un modèle où on travaille toujours 5 jours par semaine, est-ce qu'on doit travailler 5 jours par semaine avec 5 semaines de congés payés, est-ce que le télétravail peut intervenir, est-ce que le télétravail c'est vraiment du travail, c'est-à-dire est-ce que ça doit compter une journée de télétravail comme une journée au bureau, dans lequel on a des interactions avec ses collègues, ou pas. On sent bien aujourd'hui qu'on manque de normes et de repères, que peut-être la façon de discuter des conditions de travail avec un salarié, c'était facile il y a 10 ans. On lui disait, ben voilà, t'as un bureau, t'as des horaires, puis des objectifs, et on va attendre que tout ça se mette en place, et puis on négocie dans ce cadre-là, mais c'est relativement simple. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est très éclaté. Vous signalez ces salariés qui sont pas majoritaires, mais j'en ai rencontré, qui demandent effectivement à être 100% en télétravail, ce qui est quand même parfois une exigence très curieuse. C'est-à-dire, oui, vous vous dites, je vais payer quelqu'un, et je vais jamais le voir, si ce n'est en Zoom. Et je n'ai aucune idée de comment il travaille, de comment il organise son travail. Je m'en remets à la confiance que je lui fais et à la réception de ses productions, en espérant que ça va coller avec ce que je veux. Mais comment ça se passera quand un client me met une deadline et que je n'ai pas vu le salarié en question véritablement, je ne sais pas s'il est au travail. Voilà, comment ça va se passer ? Donc c'est, on est un peu perdu. On est dans un monde un peu sans repère, avec des salariés qui demandent des choses, qui estiment qu'un certain nombre de choses sont dues, et puis de l'autre côté, probablement des entreprises qui ont du mal à faire des propositions attractives, mais productives aussi, parce que il ne s'agit pas juste d'attirer des salariés dans une entreprise. Il faut aussi les faire travailler quand même à un moment.
Emmanuel Auriol, sur cette histoire de semaine de 4 jours, qu'est-ce que vous voulez...
Oui, donc moi je crois que c'est quand même lié en partie à la situation de tension sur le marché du travail. Donc c'est une demande des salariés, très clairement. Je connais effectivement pas mal de gens très qualifiés qui travaillent à l'OCDE ou autres, qui ont demandé à être en télétravail au moins 2 jours par semaine, qui habitent à Biarritz plutôt qu'à Paris, etc. Enfin bon, il y a eu des changements liés...
2 jours encore, bon...
Mais... Non, mais ça fait 4 jours du coup. Enfin, mais c'est des négociations. Hein. Mais si vous voulez garder vos salariés, effectivement, il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'ils soient contents et qu'ils partent pas ailleurs. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Hein. L'autre chose, moi, il me semble que les études montraient, pendant les confinements, il faut voir que les gens n'avaient rien d'autre à faire que travailler. Donc les gens qui travaillaient en télétravail dans certaines boîtes ont été plus productifs à la fin que s'ils avaient été en présentiel. Mais ça dépend, à mon avis, vraiment des secteurs. Par exemple, je pense que pour l'administration française, c'est une catastrophe d'avoir les fonctionnaires en partie en télétravail, parce que c'est pas des jours où ils travaillent beaucoup, à mon avis. Hein, c'est mon sentiment.
Ça a été très efficace dans l'éducation.
Oui, voilà. Oui, alors ça, l'éducation. L'éducation.
C'est très dur.
Et pour ceux qui venaient devant leur Zoom. Ça a été une catastrophe. Donc il y a des secteurs, à mon avis, où c'est une catastrophe. Il y en a d'autres où c'est bien, parce que ça évite de perdre du temps. Et notamment des gens qui ont des missions très facilement, à mon avis, qu'on peut définir très facilement, avec des objectifs très clairs. Bon, après tout... Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est un retour en arrière. Parce que
mais je vois venir le truc assez vite. On va dire, ah bah oui, c'est un truc de privilégié, la semaine de 4 jours. C'est vous avez tel job, c'est possible.
Bien sûr,
Je suis convaincu que c'est un sujet qui va, effectivement, comme je l'ai dit, polariser, parce que ce sont des emplois qui sont relativement très productifs, assez
qualifiés,
dans lesquels on a cette flexibilité-là. Et
c'est évident. C'est pas
on voit bien que c'est pas ça va être beaucoup plus compliqué d'organiser ça chez le petit artisan que dans la société de services IT.
Stéphane Carcier, on a 2 minutes. Juste, j'aimerais vous entendre. On a à peu près tous les détails de ce que sera la réforme des retraites, les paramètres, on voit à peu près où on va. Votre regard sur les choses telles qu'elles s'annoncent, le compte y est, c'est ce qu'il fallait faire.
Je me suis exprimé plusieurs fois sur ce sujet-là et c'est très très polarisant, donc je fais attention à ce que je dis.
En peu de mots, parce que le temps...
Je pense que le gros enjeu, il y a besoin d'une réforme, parce que c'est une dépense très importante publique, c'est une des plus grosses dépenses sociales publiques, avec presque 14%
c'est
du
la plus
PIB.
Grosse, c'est la plus grosse.
C'est la plus grosse, 14% du PIB, qu'on n'a pas grand-chose à faire sur d'autres domaines, notamment la santé qui coûte très cher, mais genre, la population vieillit, les technologies coûtent de plus en plus cher, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc évidemment, si on veut investir dans ce dont on a besoin pour l'avenir, c'est-à-dire l'éducation, les technologies vertes, pour ne citer que ces deux éléments qui sont vraiment centraux pour la France.
Et la santé, oui.
Et aussi la santé, évidemment. Il faut des marges de manœuvre. Et je ne parle même pas d'un pseudo-déficit ou d'un déficit du régime. Je crois que c'est vraiment une question. On a une population qui vieillit, on a des besoins qui sont nouveaux, et on se dit que de ce côté-là, il y a des marges de manœuvre. Alors, est-ce que les paramètres sont les bons? Effectivement, c'est très très compliqué. Il y a un débat sur les mesures, soit l'âge, le report de l'âge de départ minimal en France, donc augmenté de 62 ans à 64 ou 65 ans, et puis il y a la durée de contribution qui est l'autre paramètre extrêmement important. Les deux paramètres ont des effets en termes d'économie qui sont différents à des horizons plus ou moins lointains. Donc, compte tenu de la démographie en France aujourd'hui, un paramètre qui rapporte beaucoup, c'est la mesure d'âge. Parce que si on avait une population un peu plus âgée, ça jouerait pas. Mais aujourd'hui, la mesure d'âge va rapporter beaucoup tout de suite. Bon, maintenant, elle crée aussi beaucoup d'inégalités parce que potentiellement, il y a des gens qui ont commencé à travailler très tôt et du coup, la mesure de durée de contribution est plus juste, puisqu'elle elle joue pour tout le monde et on peut sortir là. Donc on voit bien les éléments du débat, c'est pas facile. Il y a à la fois une équation budgétaire, une équation de d'équité sociale. Les paramètres sont là, il va falloir trouver le bon équilibre, mais tous les pays ont fait à peu près des choses qui sont dans ces zones.
On en reparlera.
Et l'immigration pourrait être un élément aussi dans le débat des
retraites. Mais on en reparlera, parce que de toute façon, là, les syndicats mobilisent à continuer au mois de janvier et il y a des chances qu'on ait largement l'occasion de s'étendre plus que sur une minute 45 autour de ce sujet. Stéphane Carcillo. Merci d'avoir été là. Également Emmanuel Auriol, vous revenez quand vous voulez, Emmanuel. Xavier Tinbeau, à très bientôt. Et on se retrouve demain à 9h.